Chapitre 80. Hugo manque de tomber dans l'escalier abrupt en pierre quand une rafale s'abat sur lui. Il trébuche, glisse de quelques marches, retrouve son équilibre, mais sent qu'il s'est froissé un muscle dans le dos. La neige le fouette au visage. Il lui a fallu près d'une heure pour parcourir 2 kilomètres, escalader des arbres abattus et progresser entre les mâts de drapeaux brisés, les débris de stores et de panneaux solaires emportés par le vent. Le métro a déposé tous les passagers à la station Aspoden avant de refermer ses portes. La plupart sont restés là, hésitants, près des portillons, mais Hugo a décidé de marcher jusque chez lui, malgré les mises en garde. Il a fermé son blouson et est remonté à l'air libre. Le sol carrelé de l'entrée du métro était recouvert d'une épaisse couche blanche. En sortant dans la rue, il a eu l'impression de se retrouver face à un canon à neige. Tout était sombre, aucune voiture. Aucun mouvement. Il ne lui reste plus que 500 mètres à faire. Il presse le pas. Il a perdu toute sensation sur le visage. La clôture blanche d'une grande villa a été arrachée. Des rideaux roses flottent par les fenêtres brisées. Hugo se plaque soudain contre un mur en voyant voler une plaque de tôle. Elle atterrit lourdement sur le toit d'une voiture à 10 mètres de là, faisant éclater toutes les vitres. Le dernier tronçon de la Petersbergswegen est relativement abrité. Mais les grands pins se penchent dangereusement et le sol est jonché de branches, d'aiguilles et de pommes de pin. Dans l'obscurité et le brouillard neigeux, il peine à reconnaître l'entrée de la maison. Les poubelles vertes sont renversées dans la pente. Il descend en luttant contre le vent glacial, enjambe encore 3 arbres abattus, se blesse à l'intérieur de la cuisse et court jusqu'à la porte. Ses longs cheveux lui tombent lourdement autour du visage. Des tuiles brisées jonchent le sol du côté abrité de la maison. Le vieil érable gémit. Il trouve les clés, déverrouille la porte avec ses doigts gelés, frappe ses chaussures pour en ôter la neige et entre. Il brosse la neige de sa veste en frissonnant, la suspend à un crochet, enlève ses chaussures et avance dans le couloir sombre jusqu'à la cuisine. Le vent hurle dans le conduit de la hotte au-dessus de la cuisinière. Il passe dans la bibliothèque, perçoit une légère odeur de bois de bouleau brûlé et comprend que son père a allumé un feu dans le poêle en faïence de sa chambre. Hugo monte l'escalier, voit la lumière douce dans le couloir, jette comme d'habitude un œil en direction de son ancienne chambre avant de prendre à droite. Bernard et Agnetta sont assis devant le poêle, chacun un verre de vin à la main. Sur la commode repose une assiette remplie de saucisses et de pain. « Hugo !» s'écrie Bernard en se levant. « Le métro s'est arrêté. J'ai dû marcher depuis Aspoden, » raconte-t-il. « Tu as eu de la chance. Rien ne fonctionne. » dit Bernard en l'embrassant. « Tu es glacé. Assieds-toi près du feu. C'est de la folie dehors. Content que tu sois rentré. Salut Agnetta. » Elle lève les yeux, hoche la tête et sourit vaguement. Le conduit du poêle gronde et une brusque contre-pression fait jaillir des étincelles en même temps qu'un amas de neige s'écrase contre la fenêtre. « Merde !» dit Bernard. « Vous êtes sorti ?» demande Hugo. « Il vaut mieux rester à l'intérieur. Assieds-toi là. » Hugo s'assied sur le pouf et tend les mains vers le feu. Son visage chauffe, ses doigts picotent à mesure qu'il se réchauffe. « Tu veux un whisky ?» demande Bernard. « Papa ? C'est une situation d'urgence. Je veux bien un peu de vin, » répond Hugo. « Un peu de vin ?» sourit Bernard. Et il lui en verse dans un verre à eau. « Merci, » dit Hugo. « Tu as faim ?
Je meurs de faim. »
« À ta santé. » Hugo trinque avec son père et cherche le regard d'Agnetta, mais elle fixe sans ciller les braises, observant le bois noirci et les flammes. « Qu'est-ce que vous pensez des braises? C'est trop tôt pour commencer les grillades ?»«
Peut-être un peu, » répond Hugo.
Agnetta ne répond pas. Elle semble perdue dans ses pensées et gratte distraitement une tache sur la manche de sa chemise en jean.
« Agnetta, ça va ?» demande Hugo.
« Oui, » répond-elle en le regardant avec gravité. « Vraiment ?» demande Bernard avec un sourire forcé.
« Vous êtes bizarre. Vous vous êtes disputé ?»«
Non, pas du tout. C'est sûrement la tempête. Et le fait qu'on n'arrivait pas à te joindre, » dit Bernard. Un grondement sourd retentit dans la cheminée, un son sinistre, comme des cors résonnant sous la terre. Hugo s'éloigne un peu du feu et savoure le vin frais, contre ses lèvres brûlantes.
Papa, je sais que tu aimes beaucoup Lars, que vous êtes amis, dit-il. Mais il s'est passé quelques trucs. Il semble qu'il donne, à moi et à d'autres patients, des médicaments qui aggravent notre somnambulisme. Il est très investi dans sa recherche, répond Bernard. Je comprends que ce soit lié à sa recherche, mais c'est pour le moins contraire à l'éthique. La frontière n'est pas si claire. Arrête de le défendre, dit Hugo avec un sourire étonné. Ce n'est pas ce que je fais. Un fracas éclate à l'extérieur, suivi de coups lourds contre la maison. Merde, c'était quoi ? Demande Hugo. On dirait que l'érable est tombé, dit Bernard en saisissant le tisonnier. Il l'enfonce dans le poêle, le bois crépite, se fend et s'effondre en braise. Je vais chercher plus de bois, dit Agnetta. Pas la peine, dit Bernard en lui attrapant vigoureusement le poignet. C'est pour la nuit, explique-t-elle en se dégageant. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Je ne veux pas qu'elle sorte par ce temps. J'en ai déjà rentré suffisamment, il y a 2 paniers pleins dans la bibliothèque. Hugo voit la sueur couler sur les joues d'Agnetta. Bernard en broche 3 saucisses sur des pics à griller. Papa, j'ai commencé à lire mon dossier médical, dit Hugo. Ils disent que j'avais la clavicule cassée la première fois que je suis venu à la clinique. Tu m'en as jamais parlé ? C'est vrai, j'avais complètement oublié, dit Bernard. Tu jouais sur la balançoire, tu sais, celle qu'on avait accrochée à une branche de l'arbre, et tu as percuté le tronc. Mais je me souviens que je... Il s'interrompt, observant les saucisses au-dessus des braises. Quoi ? Qu'est-ce que tu allais dire ? Demande Bernard, les yeux brillants.